Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jacques-Yves Molima pour le journal.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, les titres. Un homme, commerçant de son état, a été tué la nuit dernière par des hommes non autrement identifiés, des hommes armés, à Kindu dans le Maniema. Une situation qui a jeté dans la rue les habitants en colère. Ces derniers manifestaient leur ras-le-bol face à l'insécurité enregistrée ce mois de janvier. Et puis, les mouvements de grève se poursuivent dans plusieurs entreprises de la capitale, ce notamment à la SCTP, Exonatra et SCPT, Poste et Télécommunications. Dans ce journal, vous suivrez l'impact de cette grève de la Poste dans l'ensemble du pays. L'invité de cette édition, c'est le chef des opérations de terrain à l'UNICEF, Pierre Bru, nous brossera le tableau peu reluisant de la situation humanitaire en RDC où plus de 12 millions d'enfants congolais, dont plus de 5 millions, sont dans le besoin pour cette année 2019. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. À Kindu, un commerçant a été abattu la nuit dernière par des hommes armés non autrement identifiés. Ce vendredi matin, les habitants de cette ville ont manifesté leur colère devant le bureau de l'autorité municipale. À la base, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés durant tout le mois de janvier. Le maire adjoint de la ville parle d'un calme relatif et appelle la population à la vigilance. Mathieu Lungachamboui.
La criminalité a augmenté dans la ville depuis début janvier, lorsque nombre important des renforts de FRDC et de la PNC ont été déployés dans la ville. La population locale soupçonne ces hommes en uniforme d'être responsables de la série de vols armés et de meurtres qui ont érigé domicile dans cette ville. Maître Alain Kabundi.
Depuis un mois et demi, nous vivons dans une psychose qui ne dit pas son nom. Au début de la semaine ici, on a dénombré 10 cambriolages. Cette insécurité s'observe depuis la permutation des policiers. Ailleurs, ceux qui sont venus, c'est ceux-là qui sont en train de causer l'insécurité dans la ville de Kindu. Trop c'est trop. Le régime vient de changer, que les tueries cessent.
Lors de la manifestation, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la population en colère et des balles réelles tirées en leur conséquence, deux victimes touchées par balles perdues, un élève touché à la poitrine et une fillette au ventre. Docteur Octave Onganda, maire adjoint de la ville, parle d'un calme relatif.
Nous sommes pieds sur terre jusqu'à ce que nous allons découvrir la main noire qui est en train de pénaliser les autres dans cette ville. Et nous demandons à la population de rester calme.
Suite à ce qui précède, la société civile Force Juive projette une journée ville morte demain samedi sur la ville de Kindu. Mathieu Ilunga Chambou Monachebe, Kindu, Radio Okapi.
Et puis poursuite hier, jeudi à Goma de l'affaire Tcheka à la cour militaire opérationnelle. Ce chef prévenu de la milice du NDC, poursuivi pour plusieurs crimes commis en territoire de Walikale, affirme avoir reçu le soutien de quelques membres du gouvernement en appui à son mouvement. Par ses révélations, Tcheka, entouré de ses avocats, voulait écarter la prévention de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge. Le point avec Gabriel Waminga.
Tout au long de sa déposition devant les juges, Tcheka a soutenu bec et ongles que son mouvement collaborait avec quelques membres du gouvernement. Tcheka a affirmé que chaque fois qu'il reprenait les villages jadis sous contrôle des combattants FDLR, il faisait appel aux FRDC pour leur contrôle. Quant à la question lui posée par la cour sur le soutien du gouvernement à son mouvement, Tcheka a clairement dit qu'il y avait quelques membres du gouvernement, sans les citer, qui appuyaient les combattants FDLR pour des fins d'exploitation minière, alors que d'autres autorités les soutenaient dans ses actions. A titre d'exemple, Tcheka a soutenu Science Tenante avoir reçu du gouvernement congolais une somme de 20 000 dollars américains et une vache à titre de gratification pour son combat contre les combattants FDLR. Ce chef de guerre présumé a en outre affirmé au cours de cette audience avoir reçu plusieurs délégations, dont celle de la CIRGL à Pinga, son ancien quartier général. C'est avant d'indiquer que son mouvement n'avait pas une nature insurrectionnelle, par contre, il s'agissait d'un mouvement d'autodéfense populaire. Enfin, quant à la question lui posée par la cour sur les preuves écrites attestant l'appui du gouvernement à son mouvement, Tcheka est resté quelques instants hésitant devant la cour avant d'exiger l'audition de ses témoins. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Autre procès, c'est celui de meurtre des experts de l'ONU qui s'est poursuivi hier jeudi au tribunal militaire garnison de Kananga au Kasaï central. Les avocats de la défense ont déploré au cours de l'audience la lenteur du procès, allégation rejetée par le ministère public. André Kambala Moujanaï pour les détails.
Diverses sources indiquent que Zaïda Catalan et Mike Sharp ont été tués le 12 mars 2017. Et c'est depuis juin de la même année que le procès sur ce meurtre a été ouvert. Cependant, à l'audience de jeudi, l'un des avocats du collectif de la défense affirme que la procédure fait du surplace. Maître Trésor Kabango.
On doit évoluer. Le procès évolue. C'est vrai, avec beaucoup de difficultés, la défense estime que si leurs clients sont arrivés, n'est-ce pas, à commettre pareil crime, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle renseignant qui les a manipulés.
Non, retour que l'avocat général des forces armées, le colonel Cyprien Mouaou, qui représentait le ministère public au cours de cette audience, estime que le tribunal prend le temps qu'il faut pour éviter les erreurs judiciaires.
On ne peut pas aller vite pour le plaisir d'aller vite, parce qu'il y a des vies humaines qui sont concernées, il y a aussi la vérité judiciaire qui doit être découverte. Donc moi je pense que le tribunal est en train de faire tout pour éviter les erreurs judiciaires. Si vous nous reprochez d'avoir déjà fait 2 ans, mais qu'est-ce que vous direz de la CPI qui fait 8 à 10 années pour pouvoir donner une décision par rapport au fond quant aux faits qui ont été soumis à son examen.
De Kananga, André Kambala Moujanaï, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, les mouvements de grève se poursuivent dans plusieurs entreprises de la capitale. Sur les cas de la Société commerciale de transport et des ports, où les agents revendiquent 18 mois de salaire non payé. Les agents exigent aussi le départ du directeur général Moukoko Samba ainsi que son comité de gestion. Du côté de la Société congolaise des postes et télécommunications, c'est le même mouvement qui est observé. Un agent de cette entreprise trouvé sur le lieu de la manifestation parle de l'impact de cette grève dans l'ensemble du pays. Jean-Claude Akela Guessa est au micro de Sarah Soumela.
Bon, sur le plan d'exploitation, surtout dans le secteur postal, l'impact de la grève est énorme. Il y a beaucoup de réclamations, les gens appellent de partout, en province comme à Kinshasa, parce que vous êtes sans ignorer que cette affaire de commerce électronique sur le net, il y a plein de gens qui achètent déjà à travers le monde, surtout en Asie, en Chine, en Singapour et partout. Il y a des courriers, il y a des articles qui viennent de partout à travers la poste et qui sont destinés dans toutes les provinces, au Katanga, dans toutes les provinces, Kivu, Nord, Kivu, Sud, Kivu, qui sont partout dans le pays. Depuis que nous avons commencé la grève, ces envois sont stockés, on ne sait pas les distribuer, donc il y a des courriers très importants également, des recommandés, hein, des gens qui ont acheté par-ci par-là et qui attendent qu'on leur livre leurs articles ou leurs courriers, mais qui sont en souffrance. C'est plein. On reçoit des appels, des recommandations, des gens qui sont en train de pleurer, mais on n'en perd rien parce que les agents qui doivent distribuer ces courriers sont en grève.
Autre nouvelle, la coordination de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo, OCHA, fait état des informations très graves sur l'existence d'un système de fraude dans la distribution de l'assistance humanitaire. OCHA dit avoir initié un examen approfondi des procédures internes et des mécanismes de contrôle et d'audit. Objectif, déceler ces réseaux de fraude s'il existe et prévenir tout risque de fraude. Les détails avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Dans un communiqué diffusé hier 31 janvier, OCHA précise que ce système de fraude concerne les cashs et les coupons dans certaines zones de l'est du pays. D'après OCHA, c'est une enquête toujours en cours qui a révélé ces informations de fraude. Il s'agirait concrètement d'un réseau impliquant des intervenants à plusieurs niveaux de distribution de l'aide et une utilisation frauduleuse des mécanismes de réponse humanitaire, et ce, aux dépens des populations les plus vulnérables en République démocratique du Congo. Aussitôt, une équipe humanitaire composée de représentants des organisations et institutions de l'aide humanitaire s'est réunie pour initier un examen approfondi des procédures internes et discuter de la mise en place des mécanismes additionnels de contrôle et d'audit. Des mesures correctives ont été immédiatement envisagées sur le terrain ainsi que d'autres visant à atténuer les risques et à garantir une assistance humanitaire rapide, transparente et efficace aux populations dans le besoin. Conclut OCHA.
Nous sommes le 1er février 2019 aujourd'hui, 2 ans déjà depuis la disparition d'Étienne Tshisekedi Lumumba, président du parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Selon Jean-Marc Kabunda Kabunda, président délégué de ce parti, il attend que les institutions qui seront bientôt mises en place élèvent Étienne Tshisekedi au rang des héros nationaux. Jean-Marc Kabunda est interrogé par Paul Matendo.
Étienne Tshisekedi, c'est une icône de notre classe politique et que s'il y a à dire, c'est d'avoir une pensée pieuse à sa personne et de demander au très haut de lui réserver une place de choix pour tout ce qu'il a fait dans notre pays. Nous attendons que les institutions qui seront mises en place puissent concrétiser le vœu de tous les combattantes et combattants de l'UDPS qui l'ont toujours considéré comme un héros. Déjà, nous, au niveau du parti, nous l'avons déjà fait.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le rapatriement de son corps?
On vous communiquera le programme après. Jusque-là, aucun programme n'est déterminé. Il n'y a pas un programme tracé, donc nous avons d'autres priorités pour le moment. Il va falloir que les institutions de la République soient mises sur pied et on verra après.
L'invité.
L'invité de ce vendredi soir est Pierre Brie, chef des opérations de terrain à UNICEF. Avec 12,8 millions de Congolais dans le besoin, dont 5,6 millions d'enfants en 2019, la situation humanitaire est préoccupante en RDC, selon cette agence. Elle lance par conséquent un appel de 326 millions de dollars en faveur des enfants congolais et met en œuvre avec le gouvernement un plan stratégique semestriel de lutte contre Ebola. Pierre Brie aborde cette problématique humanitaire en RDC avec Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Pierre Brie, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment se présente aujourd'hui la situation humanitaire en RDC, notamment en ce qui concerne les enfants?
Écoutez, j'aimerais bien pouvoir vous donner des bonnes nouvelles, mais malheureusement, la situation continue à être mauvaise et se détériore. Alors, nous pouvons cibler quelques chiffres qui viennent d'être présentés il y a quelques jours par l'UNICEF. Nous avons 12,8 millions de personnes qui sont dans le besoin, et parmi eux, 5,6 millions d'enfants qui sont dans un grand besoin. Ces chiffres ne s'améliorent pas et ont plutôt tendance à monter. Malheureusement, la situation continue à se détériorer.
Oui, justement, à la conférence de mardi, vous avez précisé que la situation humanitaire en RDC est grave, voire pire, et que le pire est à venir. Qu'est-ce qui justifie votre affirmation?
Malheureusement, effectivement, cette situation empire. Et je prends pour explication qu'effectivement, nous avons des indicateurs humanitaires qui se détériorent à tous les niveaux, que ce soit au niveau des enfants, des violences, mais aussi au niveau des épidémies, des diverses épidémies comme le choléra, Ebola ou la rougeole. Nous avons aussi une superposition de crises dans plusieurs endroits où effectivement qui cumulent des déplacements, avec malheureusement une nouveauté, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de crises qui sont à gérer en même temps. Auparavant, nous avions quelques crises qui n'étaient pas simultanées, mais maintenant, quand on parle de l'Ituri, quand on parle du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, mais aussi du Kasaï, sans parler d'autres petites crises que nous avons dans d'autres endroits, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. D'où mon message.
Ah oui, mais il faut dire que cette situation existait depuis l'année dernière.
Elle existe d'une certaine façon depuis l'année dernière, mais bon, alors on va peut-être plutôt dire de l'année dernière, depuis la deuxième partie 2018, mais certaines crises n'étaient pas prévues. On pensait qu'effectivement des solutions étaient trop. On s'attendait pas non plus à un tel déplacement massif en prenant d'Angola. On avait l'habitude effectivement d'avoir des Congolais qui revenaient de temps en temps chaque année de façon cyclique au Congo. Cette année, on parle de beaucoup de gens, difficile de savoir exactement combien, beaucoup de gens dans beaucoup de zones, pas seulement le Kasaï. Et ça, c'était pas prévu non plus.
L'année dernière, Pierre Brie, l'UNICEF avait besoin de 268 millions de dollars et elle n'a obtenu que 49% des contributions des bailleurs de fonds. Cette année, l'agence demande 60 millions de plus. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous aurez plus d'argent auprès des donateurs aujourd'hui plus qu'hier?
D'abord, l'approche n'est pas forcément de dire on va avoir plus d'argent. Je pense que l'approche est de demander ce dont on pense avoir besoin. Et ça, c'est très important de bien faire la différence entre dire, voilà, effectivement, les besoins, c'est des besoins qu'on pense réels par rapport à ce qu'on peut faire en termes de réponse et par rapport à besoins, notamment pour les enfants. Alors maintenant, en termes d'appel de fonds, effectivement, nous n'avons reçu que moins de 50% l'année dernière par rapport à ce qu'on avait demandé. Et cette année, on demande 60 millions de plus. J'espère et je pense qu'avec votre aide, avec l'aide de tous les journalistes, avec l'aide de tous les partenaires humanitaires, mais aussi avec l'aide de l'élan positif qu'on est en train de voir au niveau du Congo, où il y a beaucoup d'espoir, tout le monde est content de voir ce qui se passe, on va pouvoir effectivement recevoir un appui plus solide et plus diversifié, et qu'on va pouvoir travailler comme il faut pour effectivement s'occuper de tous ces problèmes à la fois.
Concernant justement Ebola, vous évoquiez la possibilité d'un plan de 6 mois avec le gouvernement. Ces plans couvrirait le Nord Kivu et l'Ituri. Pouvez-vous être plus explicite concernant ces plans?
Nous sommes en train de travailler au sein d'un groupe stratégique avec le gouvernement et différents partenaires pour effectivement lancer ce plan qu'on appelle 3, stratégique 3, qui va couvrir, c'est pas plus en discussion, ça a été décidé, qui va couvrir la période février à juillet de cette année. Nous sommes tout à fait conscients que l'évolution de cette épidémie est grave et qu'effectivement elle est peut-être sans précédent au niveau du Congo et tout à fait comparable avec la grosse crise qu'on a eue en Afrique de l'Ouest. Pour deux raisons, la grande densité de population et beaucoup de mouvements. Donc le gouvernement, avec ses partenaires, ils ont décidé qu'il fallait se mettre les moyens en termes de taille de réponse. Effectivement, cette réponse va couvrir le Nord Kivu, toutes les zones de santé du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc ça s'est élargi, en prenant aussi pour compte Goma, en disant effectivement à Goma, il faut se préparer. Et effectivement, sur la durée aussi, pour qu'on puisse éliminer ce virus et arrêter d'en parler. 6 mois, on espère que ce sera suffisant. Mais c'est un plan ambitieux. Merci beaucoup.
Monsieur Pierre Brice, c'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.